France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Nicolas Legendre, journaliste et auteur.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je suis né en banlieue parisienne à l'automne 1985. J'y ai passé les 6 premiers mois de ma vie jusqu'à ce que la vieille étable devienne une maison et que la famille y emménage. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans avec les exhalaisons de fumier et cette odeur reconnaissable entre mille, alliage acidulé de transpiration bovine et de maïs ensilé qui imprègne le paysage olfactif des fermes laitières. J'ai vécu avec la moiteur de l'étable et le lait tiède sorti du puits qu'on boit par litre, avec le rugissement du tracteur dans la cour qui signifiait que papa revenait des champs et qu'il fallait, en cas de grasse matinée, s'extirper fissa du lit, puis avoir l'air de faire quelque chose ou tout du moins d'être prêt à donner un coup de main. Avec la fatigue aussi qui harassait mon père, avec ses colères contre la laiterie, cette entité lointaine qui achetait sa production mais fixait elle-même les prix toujours trop bas, avec les centaines de litres de lait qu'on jetait parfois dans le ruisseau près de l'étable parce qu'on avait dépassé le quota, parce qu'on risquait de payer des pénalités. Un jour, lors d'une réunion de paysans du coin, mon père, ulcéré par la faiblesse des prix imposés par la laiterie, suggéra qu'il serait bon d'agir. Pourquoi ne pas se mettre en grève ? Il ne recueillit qu'un silence gêné. L'assistance passa vite à autre chose. Plus tard, il revint à la charge auprès de Michel, adhérent du syndicat et administrateur de la COP. Michel lui expliqua en substance que les difficultés financières concernaient surtout les petits et que la filière se porterait mieux une fois que ceux-ci auraient cédé la place aux vrais exploitants modernes. Mon père ne broncha pas, ces mots pourtant le blessèrent au plus profond de ses tripes. Et pour cause, son confrère lui faisait comprendre que lui, paysan sans ambition, appartenait à une espèce en voie de disparition. Michel sous-entendait qu'un exploitant plus avisé finirait par bouffer un jour ou l'autre la ferme de mon père. À l'entendre, c'était non seulement inéluctable, mais aussi souhaitable. Bonjour Nicolas Legendre.
Bonjour.
Ces lignes sont extraites des premières pages de votre livre « Silence dans les champs », sorti il y a maintenant 2 ans, et qui est une immersion donc dans cette Bretagne agro-industrielle. Cette enquête qui vous a valu le prix du livre Albert Londres a eu un retentissement, un accueil très fort auprès du public. C'est l'occasion de revenir sur votre parcours depuis donc la ferme de vos parents dans la région rennaise jusqu'au débat actuel sur le monde agricole. Et votre histoire, Nicolas Legendre, eh bien, elle commence le 10 décembre 1985. Et voilà ce que l'on pouvait entendre ce jour-là aux infos.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Plus d'une centaine de moutons ont envahi les rues de Strasbourg et les abords du Palais de l'Europe. Ces moutons ont été amenés par plusieurs centaines d'éleveurs venus de la moitié nord de la France et qui ont voulu ainsi protester contre la baisse des cours de la viande ovine et la politique agricole commune.
La Grande-Bretagne a un régime particulier, privilégié, qui est contraire au traité de Rome. Il y a 2 poids et 2 mesures.
Agriculture. À Bruxelles, la Commission européenne propose que les betteraviers participent aux frais d'écoulement du sucre pour résorber le déficit. Cette cotisation exceptionnelle varierait selon les pays, ce qu'a repoussé la France et la RFA qui demandent que le pourcentage de la taxe soit le même pour tout le monde.
Ce sont au total 29 wagons qui se sont répartis sur une dizaine de gares du Puy-de-Dôme, comme ici au Breuil-sur-Couze, mettant ainsi à la disposition des agriculteurs 300 tonnes de foin venues des Côtes du Nord.
Je vais vous transmettre les amitiés des Bretons et qui ont mis à votre disposition du foin gratuitement.
Voilà, actualité agricole chargée, hein, Nicolas Legendre, le jour de votre naissance, le 10 décembre 1985. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre ?
On se croirait en 2025,
non ? Ouais, carrément. Hein.
Rien n'a changé, en fait. Et ça illustre... Une chose, c'est que la crise en agriculture et dans l'agriculture dite moderne, c'est pas une exception, c'est pas quelque chose qui survient par le malheur d'une conjoncture. Non, la crise, elle fait partie du système en fait. Elle revient à intervalles réguliers et entre autres choses, ça permet des purges, si on peut dire. C'est-à-dire que la crise élimine des petits, les plus petits, et permet à d'autres de s'agrandir d'une certaine façon.
On entend aussi la solidarité des paysans bretons hein, avec les agriculteurs du Puy-de-Dôme suite à un épisode de sécheresse. Donc tout ça en 1985. Vos parents, Nicolas Legendre, après avoir vécu pendant 20 ans en banlieue parisienne, décident donc un jour de tout plaquer pour reprendre la ferme familiale en Bretagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là d'ailleurs à Paris, vos parents ?
Mon papa était carrossier et ma maman était secrétaire dans une entreprise de télécommunications.
Et qu'est-ce qui a motivé ce retour à la ferme alors ?
Alors, mon père m'a dit qu'il avait le sentiment de s'embourgeoiser à Paris.
Ouais.
Peut-être que, alors, ils étaient embourgeoisés, tout est relatif, hein, parce que, voilà, ils avaient une 4L, ils partaient en vacances en camping, ils vivaient en banlieue parisienne, ils avaient un petit appartement avec mon frère et ma sœur. Mais pour lui, je pense que c'était déjà, une sorte de normalisation un peu trop importante et puis je pense qu'il avait un besoin viscéral en fait tout simplement de revenir à la terre. C'est quelqu'un qui aime avoir les mains dans la terre. Il a dû convaincre ma mère, ça a été un peu compliqué.
Ouais. Il y avait quelque chose socialement qui était dissonant en fait à ce moment-là aussi dans cette volonté de revenir à quelque chose de plus simple presque.
Oui, en fait, lui, comme ma mère d'ailleurs, hein, ils sont enfants de paysans, ils ont grandi à la ferme, et puis leurs parents aussi, enfin leurs grands-parents aussi, et leurs arrière-grands-parents aussi, et puis jusqu'à aussi loin qu'on puisse remonter, on était paysans. Donc il y a vraiment quelque chose de viscéral, et effectivement, ils sont montés à Paris façon Bécassine, en fait, dans les années 60, pour trouver du boulot, pour aussi changer d'air, parce que à cette époque-là, eux, cette campagne avec... la terre battue dans les maisons, ils voyaient bien ce qui se passait autour. C'était les Trente Glorieuses, le consumérisme naissant, et ils avaient envie de voir autre chose. Mmh. On peut les comprendre.
Mais ils ont eu aussi envie d'un retour, du coup.
Ouais,
hein.
Ouais.
Vous aviez quel âge quand ils sont retournés donc, dans la région rennaise à la
J'avais 6 mois.
6 mois, ouais. Mmh. Et c'est donc là que vous allez vivre jusqu'à quel âge, à peu près ?
Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte faire mes études à Rennes.
Ouais. Vous avez beaucoup de souvenirs olfactifs de cette ferme ?
Oui. ouais, j'ai... le souvenir de l'odeur d'ensilage, qui est pas la même selon qu'il s'agit d'ensilage d'herbe ou d'ensilage de maïs d'ailleurs.
Oui.
L'odeur des vaches également, l'odeur du fumier, et puis l'odeur, une odeur magique qui est celle du foin fraîchement coupé en mai et en juin. Dans les soirées un peu longues de juin, c'est quelque chose. Donc il y a la fraîcheur, la première rosée qui arrive, et l'odeur du foin, c'est vraiment magique.
Est-ce trouve où alors exactement cette ferme dans la région rennaise ?
Entre Rennes et Redon, non loin de la vallée de la Vilaine.
Ouais. Et elle fait quelle taille alors quand vos parents reprennent donc l'affaire ?
25 hectares et 30 vaches en système conventionnel.
Ouais. Donc ça reste modeste.
C'est déjà une petite ferme à
dans
l'époque,
les années 80,
on est en 85, hein. C'est
ouais.
Déjà une petite ferme, l'agrandissement bat son plein. C'est une ferme à l'époque de taille petite-moyenne,
ouais.
Mais qui va très vite devenir petite.
Et vos parents n'ont jamais cédé aux sirènes de l'agrandissement, justement ?
Non, ils étaient en conventionnel, donc en système maïs-soja-pesticide. Hein, voilà. Mon père utilisait assez peu de pesticides pour des raisons financières et pas parce que ça l'embêtait d'en utiliser. Malgré tout, les vaches n'étaient pas uniquement nourries à l'herbe, donc on faisait du maïs. On nous avait dit de faire du maïs, hein, tout ouais. Le monde autour, l'écosystème, chambre d'agriculture, banque, etc., les techniciens.
Pourquoi d'ailleurs on faisait cette promotion du maïs ?
Parce que c'est efficace, dit-on, parce que ça permet de faire plus de volume, parce que ça permet de faire tourner le système. Quand tu, parce qu'en fait, des ruminants, comme les vaches, ça mange de l'herbe, et c'est très content de manger de l'herbe. Donc c'est presque contre-intuitif de donner du maïs à des vaches et d'en faire, d'une certaine façon, des granivores.
Mmh.
Ce qu'il y a avec le maïs, c'est que ça permet de maximiser la production, les volumes, et puis que ça permet aussi de vendre de la semence, de vendre des machines pour récolter le maïs, de vendre aussi du complément, parce que ça manque de protéines, le maïs, et le complément en question, protéiné, c'est le soja.
Donc il y a tout un business quoi derrière, hein,
exactement,
qui s'organise. Donc votre père n'avait pas l'ambition de devenir un gros producteur agricole. Donc c'est ce que on racontait finalement dans cet extrait là tout à l'heure que je lisais. Il appartenait à une espèce en voie de disparition.
Ouais, déjà à l'époque, effectivement, il y avait un élan très fort. C'était en ce qui nous concerne à l'échelle de la commune, du canton, dans à la banque, au syndicat, il y a tout le temps des réunions hein, dans le monde agricole, donc on se croise. Et il y avait un élan extrêmement fort, et à l'époque on y croyait sans doute encore davantage qu'aujourd'hui.
Ouais. C'est pour... quoi l'élan du progrès en fait,
ouais,
qui animait tout le monde?
Ouais, parce que en fait c'était le productivisme. Si on utilise le mot, le terme scientifique qui définit ce qu'on faisait à l'époque, mais il n'était jamais question d'utiliser ce mot-là. C'est une idéologie qui ne dit pas son nom. Donc, c'était le progrès, c'était la modernité, quelque chose qui était présenté comme inéluctable, en fait.
Et vous, Nicolas Legendre, alors adolescent dans ce contexte de ferme, comment vous vous sentez, vous? Est-ce que vous vous imaginez reprendre la suite ou vous avez déjà des rêves ailleurs?
Oui, oui, moi, étant enfant, en tout cas, je voulais reprendre la ferme. Et puis, par la suite, j'ai voulu devenir... concepteur de machines agricoles, parce que en bon fils de paysan, ça concerne surtout les garçons, pas uniquement. J'étais passionné par les machines, et plus elles étaient grosses, mieux c'était. Ouais. Donc j'ai voulu faire ça pendant quelques années, oui.
Votre père vous emmenait dans ces salons agricoles où on voit justement ces nouveaux modèles de machines.
Ouais, j'ai été au SPAS, donc le salon de l'élevage à côté de Rennes, et puis j'ai été au CIMA aussi à Paris, ouais, qui se tenait en même temps que le salon de l'agriculture. Le CIMA, c'est le salon international du machinisme agricole. Où bah là, c'est une exposition de grosses bécanes.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conservez une certaine fascination pour ces machines?
Ah oui, oui,
c'est vrai.
Je passe beaucoup trop de temps sur YouTube à regarder des vidéos de machines agricoles. Alors, c'est à la fois pour mon travail, en tout cas, c'est ce que je me dis, ouais, pour me tenir informé de ce qui se passe dans le monde agricole, et puis d'un élément important, hein, l'un des piliers du système productiviste, qui est la machine, mais aussi parce que cette fascination, en fait, elle est restée, donc je regarde parfois beaucoup trop longtemps le soir des vidéos de John Deere à chenille, pardon.
De moissonneuse batteuse, ce genre de choses. Donc vous connaissez tous les nouveaux modèles. On fait des trucs dingues d'ailleurs aujourd'hui dans ce domaine-là ou pas?
Ah oui, oui,
on
fait des trucs dingues, oui. Moi, à mon époque, un tracteur de...
Je sens qu'on va finir l'émission que là-dessus jusqu'à...
Je vous en parle longtemps. À mon époque, un tracteur de 150 chevaux, c'était rare et c'était beaucoup. Aujourd'hui, autour de moi, dans la campagne, je vois quotidiennement presque des tracteurs de 200-250 chevaux, voire plus. Et aujourd'hui, on fait des... alors, c'est rare en France, hein, on fait des tracteurs à chenilles. C'est assez drôle parce qu'on revient au char d'assaut, d'une certaine façon, de 900 chevaux. Donc on parle d'un outil à 1,5 million d'euros. Ils sont rares, hein, ces outils-là. Mais...
Ouais. Et ultra équipé, j'imagine, avec tout ce qu'il faut en termes de GPS pour...
Ah, bien entendu, ouais, c'est un avion de chasse.
Ouais, ouais, c'est ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça reste quand même assez fascinant pour vous. Ouais. Comment vous arrivez au journalisme dans ce contexte, hein, exactement?
Je me prends de passion pour la musique étant adolescent. Et au lycée, je lis la presse musicale, rock et folk, surtout.
Il faut dire qu'il y a une scène musicale à Rennes qui est quand même aux petits oignons. Hein.
Oui, oui, bien sûr, avec les transmusicales, avec des cafés-concerts. Je me rends compte qu'en fait, en lisant rock et folk et certains auteurs, qu'on peut faire ce métier qui a l'air sympa, qui est d'écrire de se faire payer des disques et de se faire payer des entrées de concerts. Et je me dis, tiens, ça pourrait être bien, parce que moi, j'aime écrire à l'époque. Et puis, je découvre aussi, à travers ces rock critiques, la littérature, ça peut ne pas être chiant. Parce qu'à l'époque, moi, Balzac et tout ça, je trouve ça un peu barbant. Et puis là, je découvre Philippe Manœuvre, puis les anglo-saxons, Nick Kent, etc.
Ouais, c'est d'autres styles d'écriture, là, évidemment. Hein.
Ouais.
Et c'est une écriture aussi journalistique, évidemment. Donc ça vous plaît. Donc vous commencez dans la musique, et ensuite, comment vous bifurquez vers d'autres types de reportages et d'articles?
Un peu de journalisme culturel et musical, en presse associative, souvent bénévole. Hein. À l'époque, je suis étudiant.
Ouais.
Et puis, je fais un stage au mensuel du Golfe du Morbihan, un magazine d'info indépendant lancé par quatre jeunes journalistes à Vannes. Et là, je découvre en fait l'actu, quoi, ce qu'on appelle le news. Je découvre que en faisant du journalisme, on peut se confronter, y compris en bas de la rue, auprès de chez soi, on peut se confronter à des enjeux globaux, à de la géopolitique. Je m'intéresse pas mal à la géopolitique à l'époque, et voilà, donc je tombe en fait dans le bain de l'info.
Donc pas besoin d'aller à Paris pour faire du journalisme de terrain avec des sujets denses et intéressants.
Non, 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 ça a toujours été un peu mon credo, même si à une époque je pensais passer par Paris, parce que c'est une voie inévitable pour beaucoup de journalistes, mais j'ai réussi à rester en Bretagne.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Chaque jour aura vu une nouvelle cité bretonne investie par les commandos d'agriculteurs. Guingamp après Morlaix, Lannion et Pontivy. À Pontivy, pour la première fois, la manifestation devait dégénérer en violence. Mais derrière cette jacquerie se profile tout un problème breton. Un problème qui dépasse le prix de la pomme de terre. Malgré les 1200 tracteurs des manifestants déchaînés de Pontivy, c'est le problème de la Bretagne déshéritée.
Voilà, manifestation paysanne de juin 1961, Nicolas Legendre, à un moment où la question paysanne fait irruption finalement aussi dans le débat public. On parle de jacquerie dans cet extrait, vous qui êtes l'auteur de cette enquête Silence dans les champs. C'est vrai que c'était une période un peu charnière aussi, ça, hein, ce qui s'est passé à ce moment-là.
Ouais, c'est une période charnière parce que la PAC n'est pas encore mise en place, politique agricole commune. Et puis en Bretagne, et notamment dans le Finistère Nord, on a des négociants qui sont extrêmement puissants et qui tirent les prix vers le bas, et des paysans qui sont assez peu organisés collectivement.
Ouais.
Donc c'est un peu chacun pour soi, et on a déjà des crises de surproduction aussi. À l'époque, on dit souvent, voilà, il fallait nourrir la France après la Seconde Guerre mondiale, etc. Le dernier ticket de rationnement, c'est 1948 ou 1949. Mmh. Donc la France est nourrie dans les années 50, et on a déjà des crises de surproduction.
À quel moment vous avez commencé à vous dire que vous aviez envie de travailler justement sur l'agro-business breton, Nicolas Legendre ?
J'y ai travaillé de façon... c'était un passage obligé parce que j'étais correspondant du Monde en Bretagne entre 2016 et 2020.
Ouais.
Et l'agriculture et l'agro-industrie en Bretagne, c'est inévitable, son poids économique, son poids symbolique, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet pour des articles d'actualité. Puis j'ai accumulé de la matière, en fait. Ouais. Des sources, des contacts et des gens de l'intérieur.
Et vous avez donc petit à petit cheminé avec tout le matériel que vous aviez accumulé. Et puis donc en 2023, vous sortez simultanément 5 enquêtes dans le Monde et le livre aussi juste après.
Oui. Donc pendant les premières années, en fait, 2016-2020, je ne sais pas encore que ça donnera lieu à un livre et une série d'enquêtes. C'est à partir de 2021 où voilà, je me mets à plein temps sur le sujet pendant 2 ans. Ouais.
L'un des thèmes du livre, c'est la brutalité qui est inhérente au système agro-industriel. Est-ce que cet aspect d'ailleurs du système avait déjà été documenté auparavant ou pas du tout ?
Alors ça avait été documenté de façon, parcellaire... notamment par des scientifiques, par des sociologues, je pense à Michel Salmona, j'espère ne pas écorcher son nom, dans les années 70, qui avait travaillé sur le sujet. Et puis d'autres, des confrères et consoeurs avaient travaillé sur la question, ne serait-ce qu'à travers la question du suicide. Mais je pense qu'il manquait un travail qui permette, pour la Bretagne, même si ce qui est vrai pour la Bretagne est vrai pour la France finalement aussi, un travail qui permette d'englober le tout et qui apporte une vision systémique de cet ensemble qu'est le complexe agro-industriel, et une vision, une explication systémique de sa brutalité aussi.
Dans la préface de la version poche, hein, qui est sortie l'année dernière, donc de Silence dans les champs, Nicolas Legendre, vous dites avoir beaucoup douté avant de sortir cette enquête, tellement le sujet est explosif en réalité.
Oui, oui.
Vous auriez pu ne pas la sortir ou pas ?
Non, parce qu'une fois que j'étais engagé avec la rédaction du Monde, avec mon éditrice...
Parce que vous avez eu peur pour vous-même aussi quand même, hein ?
Oui, j'avais peur un peu pour moi, parce que j'ai des confrères et des consoeurs qui ont eu quelques problèmes avant moi. Je pense en particulier à Morgane Large, mais aussi à Inès Leroux, qui a subi plusieurs procès Bayon. Morgane Large a eu ses roues de voiture dévissées. Enfin voilà, il y avait tout ce contexte-là. Enfin, c'est quand même un peu pesant. Moi, le contenu de Silence dans les champs, je le connaissais. Et donc, oui, j'étais dans le doute, pas tellement sur le fait de sortir le livre ou de pas le sortir, parce qu'une fois qu'on est sur les rails, faut y aller, quoi. Déjà ce qui allait m'arriver ensuite, aussi sur toute une partie de l'enquête qui concernait les faits de violence qu'ont pu subir des opposants au système, où là, je marchais sur des sables mouvants un peu.
Ouais. Ce qui a suivi, c'est une tempête, hein, parce que ça, vous le décrivez. Une tempête, d'ailleurs, dans le bon sens, finalement, puisque... alors, les réactions hostiles, il y en a eu, évidemment, mais la vraie grosse tempête, c'est celle du public, quand même, hein, des lecteurs et de tous les gens que vous avez rencontrés, là, depuis 2 ans, dans les librairies. Énormément de rencontres, de débats. Et ça, ça a été une tempête pour vous.
Ah oui, véritablement, on n'est pas prêt à ça. J'ai dû faire 80 rencontres publiques depuis la sortie du livre. Et je continue, j'étais hier à Quimper avec des lycéens, notamment des lycéens de filière agricole.
Ouais.
Et j'ai reçu énormément de messages. J'ai été inondé voilà, de SMS, de mails.
Beaucoup de témoignages dans tous ces messages, justement?
Oui, énormément de témoignages de paysans, de fils de paysans, mais aussi de vétérinaires, de gens de chambre d'agriculture, de techniciens, d'élus, de magistrats aussi, des gens qui ont travaillé sur ce sujet, qui me disent bah, merci parce que ça me permet de mieux comprendre ce que j'ai vécu, parfois ce que j'ai subi aussi.
Beaucoup de personnes ont revécu finalement leur propre histoire en vous lisant.
C'est ce que m'ont dit beaucoup de personnes, ouais.
Ouais. Nicolas Legendre, vous nous avez apporté un courrier d'ailleurs, parce que vous en avez reçu énormément. Hein. Vous parlez de pratiquement d'un millier de lettres depuis la sortie du livre, et vous vouliez nous lire quelques lignes d'un courrier que vous avez reçu d'un jeune homme qui est fils de paysan lui-même, c'est ça ?
Oui, c'est un jeune homme qui a 18 ou 20 ans, qui est fils de paysan, et donc je lis son courrier avec son accord. Hein. J'ai juste anonymisé quelques passages à sa demande. Bonjour monsieur, je viens d'achever la lecture de votre œuvre, Silence dans les champs, j'ai été touché. Je dirais même percuté. Fils d'agriculteur, le modèle productiviste, je le connais. J'ai baigné dedans. Je l'ai longtemps considéré comme intangible. L'éducation, la prise de recul et l'esprit critique ont remis en question les fondements, ses fondements. Lors de ma terminale, j'ai fait mon grand oral autour de cette problématique. Pourquoi le suicide gangrène nos campagnes ? Votre livre m'a percuté, mais par-dessus tout, il m'a parlé. Je comprenais parfaitement vos passages sur le fondement de ce modèle. J'en ai parlé à mon père de la construction de ce modèle. Et oui, mon père fait partie de ceux qui font prospérer ce système. Papa a 4 John Deere et il a longtemps flambé. Ancien président d'une coopérative, il y croyait à ce système jusqu'à ce qu'il soit touché par une maladie qui l'a mis à terre. Qui lui a fait rappeler que dans ce modèle, seules quelques exceptions continuent leur rêverie, mais la plupart sont écrasées. Papa souffre chaque jour de sa vie car il ne peut plus aller au champ. Lui qui avait horreur de l'assistanat et qui prenait un modèle pseudo-méritocratique. Merci monsieur, je pourrais parler de votre livre pendant des heures, certains passages m'ont questionné, interpellé.
Voilà, jeune homme donc de 18 ans qui vous écrit à la suite de la lecture de votre enquête et des témoignages comme ça, vous en avez reçu beaucoup beaucoup. Hein.
Énormément, oui. Pas tous de cette teneur, il y a plein de messages différents, mais entre 500 et 1000 messages, je pense environ. Ouais.
Vous dites, il y a une dame qui vous a approché à l'occasion d'une rencontre et vous a dit, ce que l'on sait, ce que vous nous dites, c'est ce que l'on sait depuis tout le temps et que personne n'a osé dire. Il y avait une sorte d'omerta, en fait, sur ce sujet.
Oui, il y a une sorte d'omerta en Bretagne, sur les conséquences du système productiviste. Il y a une omerta et en même temps on en parle beaucoup, c'est ce qui est paradoxal, ouais. C'est-à-dire que il y a une omerta sur, encore une fois, le caractère systémique de la chose. Il y a une omerta aussi parce que ça a apporté beaucoup à la Bretagne et à la France, hein, on peut élargir. Il y a une omerta parce que c'est pas une histoire uniquement politique, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, c'est une histoire de famille, en fait. On a tous quelqu'un en Bretagne, un oncle, une tante, nous-mêmes, on travaille dans l'agriculture, enfin voilà. En même temps, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites, déjà, mais il y a des silences qui demeurent, il y a eu des silences et il y a eu du déni, il y a eu des mensonges, de la manipulation autour des algues vertes, autour des pesticides maintenant, autour de la question de la disparition des fermes. Donc oui, il y a beaucoup de silence et il y a beaucoup d'omerta parce que des gens à l'intérieur du système ont beaucoup subi aussi quand ils ont tâché de faire changer le système.
Mais est-ce que cette enquête, elle a fait bouger le système justement ou pas franchement ?
Ah non, non, non.
Rien n'a bougé.
Le système est très solide.
Rien n'a bougé.
Ah non, à l'évidence, il suffit de regarder ce qui s'est passé ces derniers mois, il suffit de regarder les débats qui ont eu lieu autour de la dernière loi d'orientation agricole, il suffit de regarder les prises de position de nos derniers ministres de l'agriculture. La réaction des lobbies agro-industriels à l'échelle européenne, qui ont été très opportunistes à la faveur de la guerre en Ukraine et du Covid,
ouais.
Qui auraient pu se poser des questions sur le mode... on aurait pu collectivement dire ouais. « bah, tiens, il faut qu'on change de système ». Mais non, les lobbies ont permis ce retournement assez incroyable, où la conclusion de ces crises-là, ça a été, non pas on va changer de système, mais on va réarmer le système, on va aller encore plus loin. Plus
donc
vite.
Ça a été pire finalement, enfin il y a eu un effet pire.
Oui, il faudra bien plus qu'un livre pour faire changer le système. Alors là où le livre, avec d'autres travaux de journalistes, de scientifiques, fait bouger des choses, c'est que moi je rencontre des décideurs. Je continue de parler avec certains et certaines d'entre eux qui me disent, parfois en off, oui, on pourra plus faire pareil maintenant parce qu'on sait. Les choses sont posées sur la table et je vois, et ils me disent que ça fait changer des choses, qu'ils ont compris certaines choses, certaines impasses.
Sauf que la machine productiviste, elle roule toujours de la même manière, au fond, aujourd'hui.
Oui.
Donc ça, c'est pas un peu désespérant, quand même, parce que, au-delà de votre travail personnel, hein, de toute l'énergie que vous avez mis dans cette enquête, on se dit aujourd'hui, on est capable de sortir un livre, de faire 5 enquêtes dans le monde, et sans avoir d'écho, ou sans faire du tout bouger les lignes, quoi.
Ouais, non, c'est pas désespérant, peut-être parce que je suis optimiste par nature, parce que j'ai des enfants aussi, et peut-être parce que moi j'ai une formation d'historien, et ce que nous apprend l'histoire, c'est qu'elle a tendance à nous surprendre. Donc effectivement, le moment qu'on vit actuellement, il est sidérant pour beaucoup de gens, il peut être extrêmement lourd, il peut être désespérant, mais c'est qu'un moment en fait. Moi je considère qu'on vit actuellement une sorte de contre-révolution, voilà, à l'échelle mondiale, mais les temps changent et les choses passent finalement.
Mais est-ce qu'il y a eu un dialogue possible, un débat possible au sein même par exemple de la Bretagne? Est-ce que vous avez rencontré des tenants aussi de l'agro-business qui ont été capables de discuter avec vous?
Oui, bien sûr, et je discutais avec eux avant aussi, en tout cas avec certains d'entre eux. Le canal n'est pas rompu, il n'a jamais été rompu. Bon, le président du Conseil régional de Bretagne n'a pas dit un mot hein, publiquement à propos du livre, tout en disant que voilà, la presse fait son travail, mais pas un mot publiquement. Ceci dit, oui, j'ai fait des rencontres publiques avec le président de la Chambre régionale d'agriculture. Alors, on a fait un débat public ensemble, mais lui a dit pendant ce débat public qu'il n'avait pas lu le livre et qu'il ne le lirait pas.
Mais il l'a critiqué quand même. Hein.
Ah oui, très, très fortement.
Sans l'avoir lu. Mais c'est vrai que vous avez eu beaucoup de réactions hostiles. Est-ce que vous avez été embêté, voire harcelé d'ailleurs ou pas?
J'ai eu des réactions hostiles, mais pas tant que ça finalement par rapport aux réactions positives. J'ai pas été harcelé, j'ai pas subi ce qu'ont pu subir certains confrères ou certaines consoeurs. J'ai pas eu de corbeau mort dans la boîte aux lettres.
Ouais.
Voilà, donc il y a eu des réactions hostiles d'élus par exemple, mais dans un cadre démocratique. Donc c'est des tribunes dans la presse, des prises de parole au sein de l'hémicycle régional, ce genre de choses. Voilà, il y a eu une note d'un lobbyiste de l'agro-industrie bretonne qui était un peu moins amical, disons, et un peu moins fair-play.
Ouais.
Mais sinon, j'ai pas eu d'autres choses.
Parmi les critiques qu'on pouvait lire, on ne peut pas laisser traîner la Bretagne dans la boue, vous n'avez pas le droit de cracher sur le modèle agricole breton, vous avez été comparé à un pompier pyromane, auteur d'une analyse paresseuse et aveugle de la situation. Et même certaines personnes dont vous auriez pu imaginer un soutien, comme Daniel Cueff, vice-président d'hiver gauche du Conseil régional de Bretagne chargé de la mer, qui s'est battu contre les pesticides par exemple, vous a pas défendu?
Non, il ne m'a pas défendu. Il a publié une tribune dans le Télégramme, sans me nommer, mais suivez mon regard, en indiquant, en mettant dos à dos, en fait, les lanceurs d'alerte et les productivistes les plus, jusqu'au boutistes, en essayant de défendre une sorte de voix du milieu. J'ai pas tellement compris cette prise de position de la part de Daniel Cueff. Je pense qu'il y a une part de tactique politique, d'opportunisme peut-être, je ne sais pas, faudra lui demander.
Et pour reprendre le titre de votre livre, Nicolas Legendre, c'est le silence finalement aussi autour de cette enquête qui peut surprendre aujourd'hui? Un certain silence en tout cas?
Oui, un certain silence en tout cas dans certaines sphères publiques et de décision. Mais parce que le sujet est trop lourd, moi je vitupère pas, je ne suis pas forcément à vouer aux gémonies nos élus, nos représentants. Je veux dire, dans le contexte actuel, un certain nombre d'entre eux font ce qu'ils peuvent. Et c'est vraiment pas simple, ça l'est d'autant moins sur la question agricole en Bretagne.
Ouais.
Même si on pourrait dire qu'un tel ou un tel devrait avoir des prises de position plus fortes et au moins devrait dessiner un horizon, dire c'est vers là qu'on doit aller. Si on veut s'en sortir. Mais c'est extrêmement compliqué. Le terrain est plus que miné actuellement.
Donc pour un paysan qui souhaiterait sortir du système productiviste, il y a quand même beaucoup d'obstacles aussi, même si on a la bonne volonté de vouloir le faire.
Ça dépend, parce qu'il y a plein de profils de paysans différents, selon qu'on est en Bretagne, selon qu'on est dans la Beauce, et dans ces régions-là, il y a plein de profils aussi, selon comment on est capitalisé, selon son histoire, selon comment on a été formé, selon ses dettes aussi, son taux d'endettement. Et il y a plein de stratégies différentes dans le monde agricole. Donc certains y arrivent facilement à se désencastrer, à trouver des nouvelles stratégies et à embrasser des itinéraires agroécologiques. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué et on peut les comprendre quand on a signé en bas de la feuille pour 600 000 euros voilà, pour des machines ou un nouveau bâtiment d'élevage ou autre. Ça peut être très compliqué.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Qu'est-ce que vous venez faire par là?
Moi, je suis journaliste.
Et comme journaliste, c'est quoi votre domaine?
Je travaille à la radio et puis je fais des reportages sur la Bretagne.
Ah, super.
Et je voudrais travailler sur l'histoire agricole de la région et peut-être aussi sur les algues vertes.
Il y a des algues vertes en Bretagne?
Oui, un peu, je crois.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir. Vous en pensez quoi, vous?
Ce que j'en pense?
Ouais.
C'est que c'est pas du tout les agriculteurs. Ce serait plutôt les stations d'épuration des villes.
Ah, vous croyez?
Vous avisez pas à foutre par terre notre belle région. L'agriculture, nous, c'est ce qui nous fait vivre. Compris?
Extrait des Algues Vertes, le film de Pierre Jolivet en 2023, inspiré du travail d'Inès Leroux. Vous êtes notre invité Nicolas Legendre. On parlait d'Inès Leroux tout à l'heure, également de Morgane Large, journaliste également. Est-ce qu'il y a une école bretonne de l'enquête journalistique? Parce qu'il y a, un sacré nid quand même chez vous, hein?
Oui, bah avec Splend notamment, ouais. Média indépendant d'enquête.
Français et en breton.
En français et en breton. On peut dire que en tout cas depuis quelques années, il y a quelque chose qui est en train de se passer, oui, autour de Splend, dont moi je suis adhérent, enfin simple adhérent et sympathisant, voilà, mais qui fait vraiment un travail d'utilité publique à mon sens sur des enquêtes poussées, longues, sur des sujets liés à l'agriculture, mais pas uniquement, récemment à la question de la prospection minière, etc. C'est un travail rigoureux,
fouillé,
au long cours, précis
et indépendant.
Et indépendant.
Ça, oui. c'est le plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore, dans la presse nationale, financée par des milliardaires, par exemple, travailler encore sur ce type d'enquête comme on le fait en Bretagne ou pas?
Oui, dans la presse régionale aussi. Hein, d'ailleurs, Ouest France et le Télégramme n'ont pas été sans traiter ces sujets. Alors, on vient de parler des algues vertes. Il y a peut-être une culture de l'enquête qui n'est pas toujours développée. Ça dépend des rédactions, etc. Mais,
ouais.
Et dans la presse nationale, Le Monde le fait, Mediapart le fait. C'est plus compliqué dans certains médias, à l'évidence.
Avec la réception de ce livre, Silence dans les champs, vous avez donc rencontré, on l'a dit, le public beaucoup, Nicolas Legendre, et vous continuez à le faire. Vous me disiez que vous étiez allé à la rencontre d'un lycée agricole hier, je crois.
Oui.
Quel est l'état d'esprit d'ailleurs des jeunes qui ont envie de s'engager dans le monde paysan, là, aujourd'hui?
Alors, je ne veux pas trop schématiser, mais moi, les jeunes que j'ai pu rencontrer en lycée agricole, en maison familiale rurale aussi, et par ailleurs des étudiants... C'est souvent divisé en deux, pas forcément à part égale, avec d'un côté des jeunes qui vont plutôt s'orienter vers des alternatives agroécologiques, bio, etc. Et de l'autre, des jeunes, souvent des garçons,
ouais.
Qui vont reprendre la ferme de leurs parents, qui sont souvent des grosses fermes, ce sont celles qui restent, hein, et là, il n'est pas... question de transformer le modèle parce que il y a une foi dans le système tel qu'il fonctionne et puis parce qu'il y a des investissements aussi.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des lycéens qui se parlent mais qui sont dans des optiques complètement différentes.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a une ligne de fracture là au sein de ces écoles aujourd'hui.
Il y a une ligne de fracture dans les lycées. Il y a une ligne de fracture au sein de l'INRAE, l'Institut de Recherche Publique.
Ouais.
Il y a une ligne de fracture politique, il y a une ligne de fracture citoyenne, elle est partout, cette ligne de fracture. Elle est entretenue aussi par un narratif qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, qui consiste à dire que toutes les agricultures doivent cohabiter. Ce qui, pour moi, est erroné, voire
Pourquoi
mensonger.
Pourquoi ?
Toutes les agricultures doivent cohabiter ou peuvent cohabiter, et il faut pas opposer les systèmes, on a beaucoup entendu ça. C'est né à partir de la montée en puissance du bio dans les années 2000, où ceux qui ont conspué le bio pendant des années avant cela se sont rendus compte qu'en fait, d'un point de vue agronomique, ça marchait, ou ça pouvait marcher plutôt pas trop mal, et puis d'un point de vue économique, ça fonctionnait aussi. Et là, ce nouveau discours est apparu sur le mode, voilà, il faut pas opposer les uns et les autres. Mais comment ne pas opposer deux systèmes quand, d'un côté, on a une agriculture qui a vocation plutôt à protéger, voire à réparer, régénérer les écosystèmes, à produire une alimentation la plus saine possible, et de l'autre, on a une agriculture dont on sait, c'est factuel, alors ça dépend des fermes, etc., bien sûr, mais dont on sait que globalement, elle a contribué à l'effondrement du vivant, à la défiguration des paysages, et à produire une alimentation qui, dans bien des cas, et là c'est le système agro-industriel, la transformation, une alimentation qui entraîne des maladies, entre autres choses. Comment peut-on ne pas opposer ces deux systèmes?
Est-ce que le bio, c'est une révolution qui va pouvoir se faire, à votre avis, véritablement? Ou est-ce qu'il y a encore trop d'obstacles majeurs et financiers, évidemment, en particulier, pour que ça puisse s'élargir beaucoup plus ?
Ce qui est certain, c'est que les obstacles ne sont pas techniques. Le bio, et on peut discuter sur quel bio, placer des curseurs, etc. Mmh. Je ne suis pas à dire tout est parfait, etc. Mais les obstacles ne sont pas techniques au sens où il est désormais possible de faire une agriculture sans intrants de synthèse, pesticides, engrais de synthèse, qui régénère ou qui protège le vivant et les paysages, et qui soit productive, peut-être un peu moins productive, mais productive, et qui rémunère les paysans. Ça, on sait que c'est possible, et il y a encore des marges de progression énormes, en recherche et aussi sur le terrain. Donc, le principal obstacle, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas là. Il est ailleurs. Il est socio-économique et surtout, à mon sens, politico-idéologique.
Et c'est un modèle qui se porte bien, finalement, le modèle qui s'oppose, finalement, à l'agriculture biologique aujourd'hui. On le voit encore à l'occasion des dernières élections agricoles, avec la FNSEA qui est encore largement majoritaire. Donc, ça reste ça aussi un obstacle pour déployer d'autres formes d'agriculture, Nicolas Legendre ?
Les obstacles sont multiples. Je pense que la FNSEA, au sein de laquelle il y a un certain nombre d'agriculteurs bio, hein, la FNSEA est un outil, finalement, au sein du complexe agro-industriel. C'est pas le verrou principal, puisqu'on a quelque chose qui fait système. Donc les verrous sont multiples. Je pense que il y a une question majeure, c'est la question du revenu et de l'accompagnement des paysans.
Oui.
Et de l'horizon qu'on fixe, parce que je pense qu'il n'y aura pas de transformation d'ampleur sans assentiment d'une partie importante des paysans, de la base. Et pour ça, il faut fixer un horizon, il faut dire où on va, et il faut assurer d'un accompagnement technique et financier important.
Et la question du foncier, comment on arrive à résoudre ce problème aussi ? Qui pose un problème d'accès aussi à la terre.
Oui, la question du foncier, elle est centrale, parce que l'agrandissement des fermes et elle fait partie de systèmes productivistes. Pour qu'ils fonctionnent, il faut que les fermes s'agrandissent, en fait. Donc on a une guerre des terres qui est à l'œuvre depuis les années 80-90. Et si on imagine un nouveau système agricole qui irait avec une nouvelle alimentation, soit dit en passant, hein, un nouveau régime alimentaire, ça doit impliquer de fait un nouveau rapport au foncier,
ouais.
Un nouveau rapport à la distribution du foncier. Et là, on entre dans des sujets techniques et complexes.
Ouais. Est-ce que l'enquête que vous avez menée en Bretagne, Nicolas Legendre, on peut au fond la dupliquer partout ailleurs sur le territoire français ou pas ?
Oui, on peut.
Ou c'est une histoire très spécifique à la Bretagne aussi ?
C'est spécifique parce que le poids économique et symbolique de l'agriculture est exacerbé en Bretagne. Mais on peut dupliquer dans la Beauce, on peut dupliquer dans les Charentes, on peut dupliquer en Pologne, on peut dupliquer aux USA. C'est exactement la même histoire. Mmh. D'ailleurs, on a des problèmes de sur-suicide dans le monde agricole aux USA, au Brésil, en Australie.
C'est une histoire que vous allez poursuivre ou pas ? Parce que là, vous sortez vraiment de deux ans très intenses, vous le disiez, avec cette tempête aussi qui est positive, hein, mais évidemment qui essore aussi beaucoup, et puis un sujet dont vous avez parlé beaucoup, 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 donc j'imagine que vous avez aussi d'autres aspirations. Donc quel est votre état d'esprit là aujourd'hui ? Vous avez envie de tourner la page de l'agro-business breton ?
J'ai un peu envie de passer à autre chose, mais il ne veut pas me lâcher, ce sujet. Donc je continue à travailler, je continue à rencontrer des gens, je travaille sur des projets audiovisuels liés à l'agro-industrie. Voilà, et tout en menant dans le même temps d'autres projets pour de nouveaux livres sur des sujets un peu plus légers.
C'est-à-dire ? C'est quoi un sujet plus léger ?
Je travaille sur la forêt en ce moment.
Ouais. Et vos parents ont lu évidemment votre enquête ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? C'était quoi le retour de votre père et votre mère ?
Ils ont été en phase, on va dire.
En phase ?
En phase, oui, oui. Bah, en fait, je leur dois beaucoup aussi. Hein, je veux dire, le point de départ de Silence dans les champs, et le regard et les hypothèses de travail de départ sont liés aussi à leur regard à eux, à leur vision du monde agricole, à ce qu'ils voyaient dans les campagnes, à ce qu'ils me disaient en fait étant enfant et à ce qu'ils continuent de dire aujourd'hui. Donc oui, on est en phase.
Ouais, et ce paysage-là du sud rennais, c'est ça, où vous étiez, où était cette ferme, est-ce qu'il a beaucoup changé ? Parce qu'il y a un rapport au territoire aussi qu'on sent très fort dans votre plume.
Il a été... donc moi, je suis dans les collines de ce qu'on appelle les vallons de Vilaine, entre Rennes et Redon. C'est un paysage qui a été moins remembré et donc moins défiguré que d'autres en Bretagne, tout simplement parce qu'il était moins productif, parce qu'il était moins rentable pour cette agriculture-là. On a des mauvaises terres, hein, comme on dit, caillouteuses, séchantes, etc. Mais ouais. néanmoins, il a beaucoup, ce paysage a beaucoup subi, c'est-à-dire le remembrement a eu lieu chez nous. Moi, je le sais parce que mes parents me racontent en fait comment c'était avant, et puis parce que je me suis beaucoup documenté, j'ai regardé les photos aériennes de 1950. C'est incroyable en fait. Moi, ce pays qui est le mien, dans lequel je continue de marcher, de me promener, il a été transfiguré et à bien des égards défiguré durant les années 1960 à 1980, et des fois il continue de l'être aussi.
La solastalgie, c'est un sentiment que vous éprouvez, vous, par rapport à ce territoire, hein, breton ?
Oui, parce que j'ai vu, étant enfant, j'ai connu des lieux auxquels je me suis attaché, des petits vallons avec des houes, une végétation typiquement bretonne, hein, de chênaies et traits, avec des jacinthes des bois au printemps, des houes, des noisetiers, etc. Je connais comme ça des petits vallons qui ont été littéralement rayés de la carte ces dernières années, qui ont été remblayés avec de la terre de remblai, de grands travaux rennais. Ils ont été remblayés pour, alors, parce qu'il fallait faire quelque chose du remblai, mais aussi pour agrandir des champs. Ça permet d'agrandir un peu des champs de maïs, et puis on touche plus de primes à l'hectare, de primes à la PAC. Et là, c'est tout un monde qui disparaît, en fait. Donc c'est compliqué à vivre.
Mais c'est toujours cette région que vous habitez.
Oui, et que j'aime beaucoup.
Nicolas Legendre, merci beaucoup. Silence dans les champs, enquête. La version poche est sortie l'année dernière. En attendant, donc, d'autres livres sur la forêt, puisqu'on vous a bien entendu. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Terre au Carré. Et c'est l'heure de vos messages avec le répondeur.
Bonjour, c'est Claudine d'Artigat en Ariège. Je voulais vous parler du Groenland qui regorge de ressources naturelles en or, en eau, en terre rare, en nickel, en cobalt, etc., qui aiguisent bien des appétits des multinationales. Et ils ont trouvé un porte-parole en Trump. Or, le Groenland est fragile, sa biodiversité est fragile, sa calotte glaciaire est fragile et joue un rôle fondamental dans le système climatique mondial. Alors pourquoi ne pas décider de compenser la non-extraction des ressources naturelles par un revenu versé aux 55 000 Groenlandais ? Ils ne sont pas si nombreux que ça. La présidente von der Leyen de la Commission européenne est capable de trouver des milliards pour aller guerroyer. On pourrait trouver quelques centaines de millions pour sauver le Groenland et la planète. Bonne journée.
Alicia Platère, c'est Jean qui vous parle de Pontac en Béarn. En même temps que la prétendue ministre de la Transition écologique nous promet en grande pompe monts et merveilles pour faire face à plus 4 degrés à la fin du siècle, la même ministre prépare en catimini un projet de décret réautorisant l'usage de la vaisselle et des couverts en plastique dans la restauration scolaire, usage pourtant prohibé par la loi depuis le 1er janvier 2025. Si l'on veut essayer d'empêcher le gouvernement de céder à la pression du lobby du plastique Plastalliance, il est encore temps de participer à la consultation préalable à la publication de ce décret, consultation qui s'achève ce vendredi soir 14 mars à minuit. D'avance, merci pour la santé de nos enfants.
Salut, c'est Raphaël de Christanie. Je vous écoute de temps en temps, je suis pas toujours d'accord avec les intervenants, ça me paraît normal. Par contre, quand j'entends que vous n'avez pas apporté de contradiction à un intervenant critique d'une partie du discours de Monsieur Jancovici, je suis surpris. Ce Monsieur Jancovici s'est exprimé dans tous les médias, France Inter a fait la promotion de son livre, en a offert des exemplaires à tour de bras, je n'ai pas entendu tellement de détracteurs. Demander à ceux qui lui apportent une contradiction d'être contredit à leur tour, c'est vraiment chercher la petite bête. Un réflexe de naturaliste, sans doute.
Bonjour, c'est Jonathan, je vous appelle depuis les Hautes-Pyrénées, à côté de Bagnères-de-Bigorre. Oui, je réagis à l'émission sur la voiture électrique que je viens d'écouter en replay, et en fait je m'étonne que le rêve qui nous inspire tous ne soit pas un monde sans voiture, un monde où on réapprendrait à habiter lentement cette terre, parce que pour moi la voiture c'est pas uniquement une question d'émissions de CO2, qu'évidemment la voiture électrique permet d'éviter, c'est aussi... un danger sur la route en permanence. Moi, j'ai fait le choix de vivre sans voiture, de ne même pas passer mon permis. Donc, je fais tout à vélo. J'ai 35 ans, j'ai deux petites filles, donc c'est possible, en fait. Il suffit de s'organiser. Et puis, on va plus vite. Ça, c'est étonnant, hein. Mais en fait, la vraie vitesse d'une voiture, c'est 9,8 km/h. Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Mais il y a aussi tout le temps qu'on passe à payer la voiture, l'essence, les assurances, etc. Et en fait, quand on fait ce calcul de la vraie vitesse d'une voiture, eh bien, aujourd'hui, on tombe sur 9,8 km/h en France. Un penseur des années 60 l'avait fait avant moi aux États-Unis et l'avait trouvé à l'époque 6 km/h. Donc ça a un petit peu accéléré, mais quand même à vélo on est plus rapide.
Et ce sera notre mantra pour le week-end à vélo, on est plus rapide. Merci pour vos messages. 01 56 40 45 45. Merci à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission. Dossier préparé par Emma Bouvier, Julien Thévenot à la technique et Samia Djedaï pour les archives.